Vous écoutez
RMC.
RMC.
Les discussions sont allées en bon train et puis tout ce qui est bien passé s'est déroulé, même si ça a été bien sûr difficile.
J'ai été latéralisé du côté droit, puis je pense que c'est là où je me sens le mieux.
J'ai appris beaucoup de choses. Tout simplement à apprendre à manger et à bien fluidifier mon énergie dans mon corps.
On a un petit peu moins la main prise que Paris. Ils ont touché la barre, là, on vient de toucher le poteau.
Il a donné les clés du navire.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
On est là jusqu'à minuit avec Jean-Louis Tour, Daniel Riello, Florent Gautreau. Tout à l'heure, la nouvelle chronique du mercredi de l'After, After Vintage. PSG, Stéphane Bucarest 97. Si vous avez raté ça, vous allez tout savoir. C'est une histoire rocambolesque, vous verrez. L'équipe de France au programme tout de suite dans quelques secondes. Mais d'abord les résultats, parce que Benfica donc vient de se qualifier pour la phase de poule de Ligue des Champions. Ils l'ont encore fait, Benfica. Et Mourinho, une fois de plus, a foiré.
Benfica, c'est quand même un exemple incroyable. Enfin, on l'avait dit dès le
tout
départ, dès le tirage de Nice, en disant que bon, c'était un mauvais tirage pour Nice. Mais même là, tu vois, ça passe pas de beaucoup. Ils ont quoi, 0-0, 1-0.
Mais bon, ça passe. Voilà. Qualification de Bruges comme annoncé et qualification du FC Copenhague également en phase de poule de Ligue des Champions. Ils ont éliminé Bâle ce soir, les ennemis
de Brøndby.
Ça fera au moins un club de 2 sur 2 qualifié, hein. On les félicite. Copenhague. Et puis Manchester a renversé le match face à Grimsby, 3-2 désormais, même 3-3. On est à la séance de tir au but là.
Touchez pas au Grimsby.
Séance de tir au but entre Grimsby et Manchester United en Coupe de la Ligue.
Bref, 1950.
En Angleterre. Alors, sur l'équipe de France, oui, avant d'accueillir Luc, il y a un nom qu'on n'a pas cité. Milieu de terrain. Alors, les milieux de terrain, c'est Tchouaméni, Rabiot, Manu Koné, Désiré Doué, qui est compté dans les milieux de terrain. Et Khéphren Thuram.
Oui.
On a donc les deux frangins.
Le milieu de terrain, il ne fait pas rêver quand même, il faut le dire.
On a donc les deux frangins qui sont là.
Ça fait plusieurs listes qu'on se dit ça.
Khéphren Thuram, on l'a un peu perdu de vue, à vrai dire, parce que.
Oui, mais il est titulaire, elle
en Italie,
joue,
là, la saison démarre à peine.
Il joue, pour le coup, il joue. Moi, je ne trouve pas transcendant.
Parce que vous parliez de Tolisso.
Mais c'est pour ça, c'est dans ce sens-là que je disais que cette liste-là, c'est assez facile, en gros, pour Deschamps, de mettre Tolisso dans cette liste-là. Après, on a.
Même à la presse de Manu Koné, il ne va pas y avoir un scandale absolu.
Non, c'est sûr. Après, j'ai comme l'impression que Deschamps a un petit problème, pour le coup, avec, tu vois, l'aura du personnage que peut être Tolisso, c'est-à-dire que il a plus de facilité à gérer ses plus jeunes joueurs qu'il a un peu à sa main. Il me fait entrer, peut-être, on va dire, un taulier dans le vestiaire. Je sais pas, hein, c'est une analyse qui
Tolisso est champion du monde avec lui.
Oui, bon, tu veux dire que ça rebat un peu les dynamiques du vestiaire où il a déjà ses leaders, ses tauliers.
Générationnellement, il peut pas le faire.
C'est pas qu'il peut pas le faire, c'est que lui, dans sa gestion, tu fais entrer un Tolisso, c'est pas tout à fait pareil que quand t'appelles là un jeune qui va dire oui, Monsieur Deschamps, je fais ce que vous voulez, je joue une minute, je joue pas.
C'est vrai, c'est qu'il y a une phase où il appelait beaucoup Tolisso, où ça faisait partie de un petit pilier, entre guillemets, mais c'était pas la même dynamique, il y avait d'autres leaders à ce moment-là et c'était pas lui.
Donc toujours.
Je précise que Guendouzi n'y est pas aussi, par ailleurs.
On en parlait. Mais c'est vrai qu'il y a quand même des signaux, il faut le reconnaître. Les signaux positifs, entre guillemets, c'est que si Kolo Muani, à un moment donné, ça ne va pas, je le disais hier, il est pragmatique, il ne va pas non plus s'attacher à le mettre à tout prix. Bon, là, il montre qu'il ne le met pas forcément. Guendouzi, quand même, c'est à moindre des choses qu'il ne soit pas. À un moment donné, il faut arrêter. Donc, il manque des joueurs, je dirais. Mais en revanche, sur certains qu'il n'a pas pris, c'est le débat qu'on avait hier, il a fait une partie du job.
Et une petite info que je ne vous ai pas donnée, on lui a posé une question sur N'Golo Kanté. Et il n'a pas fermé la porte à N'Golo Kanté.
Après, il ne ferme jamais de porte.
Oui, voilà. Ça ne sert à rien de fermer la porte.
Daniel lui a demandé, est-ce que vous prenez Moussa Sissoko? Il a rien dit.
Non, mais c'est parce qu'il ne joue plus.
Oui. Après, ça
reprenne. Non, mais il n'y a pas à fermer des portes. C'est facile de t'en sortir en disant, on continue de le suivre.
Oui, ça a des champs, quoi.
Il y a beaucoup de temps.
Sur Giroud, il a dit, il a pris sa retraite et tout, même s'il a dit qu'il ne faut jamais dire jamais.
Voilà. Il a dit, vous avez retenu que ces trois mots-là, alors qu'il a fait 2 minutes avant pour dire qu'il ne reviendrait plus.
Il ne faut pas fermer les portes, tu laisses un peu ouvert.
Voilà. Non, il a fait une bonne blague quand on lui a parlé de. Là, c'était tordant. on lui a dit, mais pourquoi Désiré Doué au milieu de terrain? Il a dit, sinon, vous seriez en train de penser que je suis vraiment un entraîneur offensif si je mettais autant d'attaquants.
Moi, je trouve que c'est très drôle. Justement, ça veut dire qu'il a une capacité d'auto-analyse et d'auto-dérision sur ce qu'on pense de lui et sur ce qu'il est au fond.
Et il est donc très lucide.
Et il est très lucide.
Sur sa carence.
L'année des 20 ans, c'est incroyable. Il va y avoir que des réconciliations. Donc Deschamps va venir dans l'after en plus.
Non, mais l'enjeu de la dernière année de Deschamps, c'est est-ce qu'il va devenir, est-ce qu'il va devenir sympa?
Ah, c'est pas ça.
Au moment de partir?
Je sais.
Tu vois, je...
Non, c'est pas ça. Déjà, s'il est spectaculaire, voilà, offensif,
c'est l'enjeu. L'enjeu, c'est le jeu. Après, c'est si Deschamps devient moins chiant.
Je vous dirai ça au mois de novembre quand je le croiserai au tribunal, s'il est sympa.
Ah, il y a un tribunal.
S'il vient. Parce que généralement, les mecs viennent pas.
Tu as porté plainte contre toi ?
Il paraît qu'il sera là.
C'était à quel propos déjà ?
Menteur.
Ah, t'as dit que c'était un menteur.
Coupe du monde Qatar à faire Benzema.
Ah.
J'attends toujours que Benzema, pour lequel je me suis mouillé quand même, fasse un geste.
Fais rien demander. Tu parles de lui dans une émission, il n'est pas obligé de sortir ses avocats pour. Tu veux en gros qu'il paye tes avocats ?
Non. Ça, voilà, mais juste qu'il dise. Puisque lui-même avait dit sur ses réseaux qu'il avait fait face à un mensonge pour être écarté.
S'il peut l'arrêter. Oui, tu veux dire, il n'a pas porté plainte contre Benzema en l'occurrence.
Exactement. Voilà.
Contre du coup, Deschamps peut venir dans l'after après novembre, une fois que cette affaire est réglée.
Il y aura un appel en plus.
Et puis la décision, elle met du temps en général.
À moins que Daniel, à l'instar de Nicolas de Taverneau, dise on est prêt à une réconciliation, mais il faut retirer les plaintes.
Ah bah, alors là, je suis prêt à tout. Franchement, je commence un peu à en avoir marre. S'il veut, on peut.
Et toi, t'y vas ou c'est ton avocat ?
Non, moi, j'y vais. J'ai fait la connerie récemment d'être trop sûr de moi et de ne pas y aller. Comme, vu comment ça s'est passé, je vais y aller. Là.
Bon, sur l'équipe de France, on a Luc au 32-16 qui est là. Salut Luc.
Salut tout le monde.
Salut. Bon, t'as vu un nouveau Deschamps avec cette liste, toi, ou c'est toujours la même histoire ?
C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire.
Vous êtes quand même super sévère. Il y a des nouveaux. Je dis pas qu'il va y avoir des nouveautés dans le jeu et tout. Je vous vends pas du rêve, mais en tout cas dans la liste, il y a un peu de nouveau quand même.
Il y a Cluj.
Non, mais dans l'esprit de la liste.
Ouais,
Cherki,
c'est un truc un peu
baisse,
par exemple.
Ah ouais, quand même. Cherki, Akliou,
t'as des joueurs techniques.
Il y a des joueurs techniques.
Et t'as des gars qu'on voulait plus trop voir et qui n'y sont pas. Donc il y a un petit. Faut être positif.
Il y a quand même 8 joueurs offensifs, pour le coup. Ça veut dire que tu vas jouer a priori avec 4 joueurs offensifs devant. Déjà, ça, avec Deschamps, c'est une petite révolution.
Ouais, mais le vrai problème avec Deschamps, et je l'avais déjà dit une fois, et c'est la raison pour laquelle. On se dirige, pour moi, la prochaine compétition, il faut faire une croix dessus. Alors, ça veut pas dire qu'on ira pas loin, hein, mais je pense qu'on ne la gagnera pas. Moi, j'ai l'impression que, déjà, par rapport à la liste, pour moi, Deschamps a fait du Deschamps. C'est-à-dire que, une fois de temps en temps, en général, il nous le fait une ou deux fois dans l'année, il essaye d'avoir un peu d'idées dans les convocations, à défaut d'en avoir sur le terrain. Donc, voilà, il essaye d'amener un peu de fraîcheur, un peu de nouveauté. Mais, le problème, en fait, c'est que j'ai vraiment, moi, cette sensation que le discours, en fait, en termes de jeu, est cassé entre le sélectionneur et les joueurs. J'ai l'impression qu'il peut convoquer n'importe qui. Il y a un décalage, en fait, entre Deschamps et le football que pratiquent la plupart des joueurs en club.
Ça, c'est une très bonne remarque.
Il y a aussi un décalage entre Deschamps et ce que font les coachs, globalement, les tendances générales.
Pardonne-moi, mais ça remarque, excuse-moi Gilbert, est plus intéressante parce que oui, la façon dont les joueurs ont l'habitude d'évoluer, et là, il faut évidemment penser à un mec comme Dembélé principalement, les mecs du PSG qui sont dans des styles complètement différents, quand ils arrivent en équipe de France et ce qu'il leur est demandé, plus les positions qu'ils doivent changer par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de pratiquer, oui, ça c'est un vrai problème, t'as bien raison de le dire ça, oui.
Et j'ai remarqué une autre chose aussi, tu me diras Daniel si, ce que t'en penses, mais j'ai aussi cette impression que Deschamps essaye d'appliquer certains principes en fait que des coachs en club demandent justement aux joueurs, mais j'ai l'impression qu'il n'y arrive pas en fait, qu'il n'arrive pas à se faire comprendre et que,
les joueurs sont un peu perdus.
Moi j'ai l'impression qu'il essaye. Par exemple, quand il a essayé de replacer Dembélé en numéro 9, j'ai l'impression qu'il a essayé de faire un peu du Luis Enrique.
Oui, non, mais il essaie le positionnement. Mais après, il fait pas la même. Après, les équipes jouent pas pareil. On n'a pas un pressing contre pressing des Bleus. On a
exactement.
Pas...
c'est le problème. C'est le problème. Et par rapport à ça, moi, je pense vraiment. J'ai l'impression que les joueurs vraiment sentent ça. Et pour qu'on ait une équipe de France qui soit vraiment compétitive et qui aille au bout à l'envie comme on a l'habitude de le faire. Il faudrait qu'il y ait des vrais tauliers, des vrais patrons qui se révèlent dans cette équipe.
Après, tu sais, c'est très très rare que les équipes nationales aient vraiment un style. On a eu l'Espagne. Alors, c'est vrai que comme ces dernières années, on avait été un peu marqué par des équipes comme l'Espagne ou l'Allemagne de Joachim Löw, mais les équipes nationales n'ont pas toujours un style. C'est vrai, même historiquement, l'Espagne de Del Bosque, parce que c'était... une sorte de on dupliquait un peu ce que faisait le Barça, parce que l'ossature c'était celle-là, 2008, 10, 12, on a eu un peu ça. Après, Joachim Löw avait également un style qu'il a mis en place après énormément de temps, mais souvent on a des équipes qui sont très pragmatiques, qui sur un mois peuvent se mettre à bien jouer ou à pas bien jouer, ou si tu regardes les derniers vainqueurs dans les grandes compètes ou les équipes qui ont marché, de là à déterminer un style, c'est pas toujours clair et net quand même.
Oui, hein. Mais le problème là où je te suis, c'est que Deschamps, lui, on sent qu'il est attiré par ce qu'il voit après, par les autres coachs. Non, déjà il attire pas ce qui est défensif, mais ça. En revanche il est quand même à l'écoute et il voit bien ce qui se passe et ce que les joueurs réclament. Oui. Et il veut un peu copier et donc essayer de... Alors, je mets Dembélé en neuf. Oui, évidemment, le pressing. Mais sauf que le cas Mbappé est quand même emblématique en équipe de France. C'est-à-dire que comment Deschamps peut gérer ce que Xabi Alonso veut gérer d'ailleurs avec Mbappé sur la participation d'Mbappé au travail de l'équipe. C'est aussi un des enjeux pour arrêter de faire en gros un système défensif et de dire aux attaquants débrouillez-vous et puis faites le travail tout seul. En fait, tant que tu ne règles pas cette équation-là, et donc le positionnement c'est une des questions, mais aussi effectivement le contre-pressing, si tu règles pas cette question là ben on risque d'avoir toujours un peu le même style en équipe de France.
Alors il y a un truc qu'on n'a pas dit quand même les gars, moi je vois aussi un Deschamps toujours plus offensif contre les petites équipes et beaucoup plus serrure contre les grosses.
Ouais, mais ça c'est la classique.
Là, il fait aussi une liste sauf des adversaires.
Sauf quand
là il joue l'Ukraine. Bon, bah, l'Ukraine c'est plus l'Ukraine. Hein,
Croatie,
les pauvres, ils sont
parce que les matchs aller-retour, il a été obligé. On avait vu que selon
il joue l'Ukraine, et... l'Islande, l'Azerbaïdjan derrière.
Il y a que des matchs entre guillemets faciles.
Oui, normalement, il peut y aller. Il peut envoyer les attaquants là. S'il le fait pas, il le fait jamais. Ça
sauf
compte aussi.
Il a quand même dit attention, je me méfie de cette phase de qualif. Ça se joue que sur 3 mois. Les points vont coûter cher.
Justement, je vais vous le raconter.
Coupe du monde.
Comment ça qualifier la Coupe du monde? On n'est pas déjà qualifié à ce moment.
Attends, je remercie Luc d'abord. Attends, merci Luc.
Coupe du monde.
Bah, merci à vous.
Salut Luc, à bientôt.
Bonne soirée.
La Coupe du monde 2026, on n'est pas qualifié.
Ah non, on n'est pas encore qualifié. Ah la France n'est pas encore qualifiée.
Alors la Ligue des Nations, elle a servi à quoi? La Ligue des Nations, ça ne qualifiait pas Gilbert.
Elle sert à te rattraper si t'es pas.
Laisse Gilbert expliquer, Jean-Luc, s'il te plaît, parce que lui, il sait.
Elle peut te permettre de te rattraper si tu ne te qualifies pas.
Après avoir passé les qualifs.
On l'a déjà joué.
Mais justement.
Si dans les qualifs, t'es pas passé et que t'es allé loin dans la Ligue des Nations, tu peux éventuellement récupérer une qualification à la Coupe du Monde.
Alors, justement. Je sais pas si Daniel a vraiment envie de comprendre. Mais
Gilbert,
dans ces cas-là,
va tout nous expliquer.
Alors, je viens vous expliquer ce qui va se passer.
Attends, je me remets bien dans le fauteuil, excuse-moi.
Oui, t'étais un peu affalé là.
Voilà, j'étais un peu affalé. Vas-y, vas-y, Gilbert, c'est parti.
Tiens, vous savez qu'il y a une sorte de turbu de ouf entre Grimsby et Manchester. On en est à 11-10.
Mais l'équipe 11-11. Qui se qualifie, là, se qualifie à quoi?
11-11. Bon, c'est le premier tour de Coupe de la Ligue en Angleterre.
Ouais, mais je veux dire, c'est un match couperet.
Bah oui.
Ah, donc c'est important. J'ai vu Onana tirer un pénalty.
Onana a tiré, tranquille.
Il a mis un plat du pied.
Là, il y a le 12e tireur de Grimsby.
Mais ils sont en quelle division?
Ah non, du coup, c'est le premier.
Grimsby, là. Oh, il a marqué Onana.
Ils sont en quatrième division.
Mais non.
Si. Burns vient de marquer.
Ouais. Il a eu il en a Burns pour marquer. Donc là, si Manchester rate, ce serait terminé. Donc, deux matchs en septembre, deux matchs en octobre, deux matchs en novembre. La France a dans sa poule, comme tu le sais, Daniel, l'Ukraine.
Azerbaïdjan, Islande.
Donc ça fait 6 matchs.
Donc ça, c'est des vrais matchs pour se qualifier. Ça.
Bah, donc c'est pour ça que tu prends 8 attaquants. Ah ouais, t'as compris.
Ouais, c'est fait. Voilà. C'est fait le truc.
Donc. Faut finir premier.
Oui, sur 4.
Oui, là, ça va être compliqué, je pense.
Mais si tu finis deuxième, tu peux encore te qualifier avec un barrage.
Voilà.
Et la Ligue des Nations?
Attends. Et la Ligue des Nations en plus.
Mais on a fait quoi? La Ligue des Nations n'a pas gagné.
Non, mais on a été dans le Final Four. Voilà, je pense que ça suffit.
Voilà. Ah, ça suffit
pour.
Oh, ça y est, c'est fini. Le 12e tireur de Manchester a raté. Voilà, donc, Grimsby élimine Manchester United. Et c'est Bemo qui a raté la star camerounaise.
Oh, la folie.
Et c'est la folie à Grimsby. On se croirait à Carquefou ou dans des bleds comme ça.
Mais tu sais que ça, c'est un événement pour une ville comme ça et tout, c'est un truc historique. Là. Et
évidemment, ça tombe sur Manchester United.
Ouais.
Voilà. Comme par hasard, qui commence sa saison en championnat et en coupe de la Ligue. Un truc cata.
Voilà pour l'équipe de France dans un instant. On part au Danemark. Tout savoir de Brøndby.
Ah, c'est fini l'explication Ligue des Nations. Ça, c'est terminé. On a tout compris.
Bah oui, c'est fini. Tu veux jusqu'au plus.
T'as compris qu'on va être premier.
Oui, à partir du moment où il faut être premier dans un groupe avec Islande, Azerbaïdjan, Ukraine, ça va. Je pense que t'es.
Mais Deschamps a dit attention. Moi, j'ai eu des souvenirs dans ma première vie d'élimination pour les États-Unis. Donc voilà.
Oh, le traumatisme de 93.
Ça n'avait rien à voir les qualifs à l'époque. Ça n'avait vraiment rien à voir.
Bah, tu le diras en novembre.
Encore que, bon, à l'époque, honnêtement, Israël, c'était pas des foudres de guerre. Hein. Franchement, ils étaient nuls. Hein.
C'est ce qu'ils disaient.
Ils étaient nuls. C'est vrai qu'ils étaient nuls. La façon dont tu perds ce match, c'est ridicule.
Dans un instant, le Danemark et la folie Paris FC. Eh oui. Troisième match à Jean-Bouin. Folie Paris FC. Je vous donne quelques chiffres dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit. L'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 23h18, Jean-Louis Tour est là, Daniel Riolo est là, Florent Gautreau est là, et Cyril nous rejoint, supporter du Racing Club de Strasbourg avec un magnifique maillot qui date d'il y a 2-3 ans celui-là, Cyril. Salut Cyril.
C'était avant Blouco, oui.
C'était avant Blouco.
Il n'y a pas, je cherche le sponsor Stoffler, il est où?
Mais c'est Pierre Schmitt.
Non, c'était pas encore.
Mais Pierre Schmitt, c'est la même boîte.
Stoffler, c'est Pierre Schmitt.
Stoffler appartient à Pierre Schmitt.
C'est pas les cuisines.
Ouais. Non, Pierre Schmitt, c'est un... Tu connais l'histoire de Pierre Schmitt? C'est Pierrot, c'est un ami.
Ah, ok.
Pierrot était le fils d'un boucher. Le fils d'un boucher au centre-ville de Strasbourg. La boucherie Schmitt. Et Pierre Schmitt a repris la boucherie de son père et il en a fait une multinationale qui est aujourd'hui un des premiers groupes mondiaux.
Et Schmitt, c'est un peu comme le tour à Paris. Schmitt en Alsace, comme nom, je veux dire.
Il y a beaucoup de Schmitt en Alsace.
Donc, rassure-moi, ce Pierre Schmitt qui a acheté une boucherie et tout, il ne fait pas des choux de la mer, lui.
Pardon ?
Tu fais pas de choucroute avec du poisson.
Pierre Schmitt viendrait t'expliquer la choucroute de la mer avec brio, puisque c'était un Alsacien pur jus.
Il était bouché.
Daniel, oui, bon, Daniel,
ça passe pas.
J'espère que demain.
Je salue Pierre Schmitt.
Demain, après le match à Brøndby, on parlera pas de choucroute de la mer, l'apostrophe.
Quelle blague de nul. Bon, Cyril, t'as peur, toi ?
Pas du tout, non. Mais bon, si on perd, on va quand même se taper la honte, quand même.
Ça, c'est pas faux.
Surtout mon projet de 100 millions.
Ça veut dire quoi, si je comprends ? T'as pas peur de te taper la honte, c'est ça ?
Après, on est habitué, hein. Tous les ans, on appelle le club en Conference League. Donc, mais bon, ça serait bien qu'on y aille, vu l'investissement mis.
Lens, c'était fait sortir par Panathinaikos l'an dernier, rappelez-vous.
Ah, on s'en rappelle pas.
C'est quand même terrible. Hein.
Et comment ça serait un échec commercial, oui.
Et t'es comment sur Blouco, toi?
Contre.
Ah bon? Tout le contraire de Gilbert.
Gilbert.
Moi, je fais la grève.
Ah ouais? Mais non!
Si.
Je croyais que c'était
fini. Tu fais la grève du premier quart d'heure?
Ouais. Au moins, on peut voir un petit peu le match, c'est cool. C'est mon but que dalle avec les drapeaux, donc pendant 15 minutes, on voit le match.
Ah oui, t'es dans le COP, quoi.
Bah, j'y vais rarement à Strasbourg, je fais plus ça à l'extérieur.
Mais je croyais que c'était fini, ça, parce que vous aviez compris que, bon, bah, pour l'avenir de Strasbourg, que Marc Keller avait expliqué, même ici, que sans ça, il n'y avait personne. Pour,
sans ça, Strasbourg, j'aurais le maintien, quoi. Voilà, ouais. C'est tout.
Comme cette année.
Non, là, vous n'allez pas jouer le maintien. L'objectif, c'est de jouer l'Europe, là, cette année. Il y a tous les ans.
Logiquement, oui, logiquement, mais bon, on verra.
Non, mais si on te dit, avec Blouco, tu joues tous les ans l'Europe, et sans Blouco, tu joues le maintien, tu prends quoi?
Sans Blouco.
Ah oui.
Bravo.
J'aime le foot populaire, moi, encore.
Mais en quoi c'est pas populaire?
Ah non, c'est trop de clubs. Là, on voit les échanges de joueurs. Là, il y a trop de joueurs qui viennent. On comprend plus rien. On a du mal à s'attacher à des joueurs. Il y a même plus de joueurs alsaciens dans l'équipe du Racing en plus.
Puis t'es la réserve d'un autre club.
Ouais, puis on a même plus de réserve tout court, nous. Donc.
Ah oui, non, mais ça. Ok, mais.
Non, mais ça m'intéresse, moi, cette réflexion. Je veux savoir. Moi,
bah
ça.
Après, voilà, tant qu'il y a les résultats, on dira.
Justement,
rien.
C'est quoi la passerelle entre je fais grève, je suis contre Blouco, mais tant qu'il y a des résultats, je suis content quand même. Parce qu'en gros, s'il n'y avait pas de résultats, ce serait la panique, vous foutriez le bordel.
Moi, je pars du principe que tant que Marc Keller sera là, il n'y aura pas trop de problèmes. Donc, c'est le dernier point alsacien qui reste au club, mais le jour où il partira, ça va être compliqué. Et puis après, une saison, on n'est jamais à l'abri. Donc, on en a un bon, il est vendu tout de suite 40-50 millions, ce qui arrange Kevin Diaz même, visiblement.
Ah oui, Bakwa, oui, parce que Bakwa est passé par Saint-Maur. Mais pour l'instant, Bakwa est toujours là.
Bah, il doit être content, l'année prochaine, on le vendra plus cher. Donc,
Mais non, alors, il est vrai que si demain Marc Keller s'en va, remplacé par un Anglais, par exemple, là,
pour toi, la dernière position, c'est Marc Keller.
Bah, oui, c'est le seul qui comprend un petit peu. C'est la seule.
Mais quelle est la différence entre toi et Gilbert, par exemple, qui. Toi, c'est non, lui, c'est oui, mais. C'est-à-dire que c'est oui, ok, j'accepte.
Non, mais moi je rejoins Cyril sur un truc.
Mais parce qu'il y a Marc Keller en caution.
Je rejoins Cyril sur la caution Marc Keller. Si demain Marc Keller est remplacé par Gordon Smith qui vient de Londres, là, c'est Arminado.
Toi c'est oui, mais lui c'est non.
Là vous inventez une raison de pas lâcher Strasbourg parce que Marc Keller, on peut pas dire qu'il ait le pouvoir qu'il avait avant. Donc c'est comme s'il était plus là en fait. Là il obéit à ce que dit Foucault.
Mais c'est une sorte de vigie quand
même. Oui, ne croyez pas qu'il décide de rien. C'est faux.
Ah, c'est oui, enfin, comme à Lyon, quand Textor a fait partir, voilà, c'était le début de la fin. Hein,
oui. Et toi, le fait que tu puisses recruter maintenant tout un tas de joueurs que tu n'aurais pas pu recruter avant, ça ne suffit pas à te convaincre?
Oui, il faut voir, parce que déjà, on a des prêts de Chelsea. C'est des bons joueurs qui viennent, donc ça va. Mais après, c'est des gamins de 18, 19, 20 ans. C'est difficile d'avoir des projets. Et on a un gardien qui change tous les ans, donc c'est compliqué. Quoi.
Et ton problème, c'est l'attachement aux joueurs?
Bah, ça part tout le temps, ça vient. Mais après, c'est aussi le foot moderne.
Tu sais, le gars prêté par Benfica, là.
Raphaël Luis.
Quand je l'ai vu sur le bord du terrain l'autre jour, j'ai dit, c'est qui celui-là? J'avais complètement oublié qu'il était là, lui.
Bah, il venait d'arriver, ça faisait son premier match, ça faisait deux entraînements. Et quand j'ai vu ses deux premières pertes de balles, j'ai fait, oula, ça va être compliqué. Et après, il a été pas mal, après, par contre. Il est sur le but.
C'est vrai qu'il y a tellement de joueurs qui arrivent que t'es perdu.
Moi, je comprends ta réflexion.
Il y a des bons joueurs, mais il y a des joueurs qui joueront jamais. C'est pour ça que demain, c'est hyper important pour Strasbourg. Après, pour les journalistes, je comprends que Strasbourg, on s'en fout, mais.
Non,
pas du tout. C'est le match de plus en plus. L'émission numéro 1 sur le foot en France, elle est présentée par un gars de chez toi.
Ouais, c'est vrai.
Et encore une fois, c'est pas parce qu'on se moque de Gilbert qu'on se moque de Strasbourg en général.
En plus, c'est un peu saoulant, comme Marseille.
Mais Cyril, c'est pas un peu saoulant le second degré qu'ils ont toujours sur Strasbourg?
Ah, moi j'aime bien, moi Daniel Golo, chez nous on l'aime bien.
Second degré d'avoir marin quand même.
Bah oui.
On peut se marrer. Non, mais moi je comprends parfaitement ta réflexion, mais ce que je me dis, c'est au bout d'un moment. Est-ce que tu, enfin, j'ai l'impression que tu te débats tout seul dans ton coin. Est-ce que l'acceptation, parce que tu vois bien l'évolution du football, l'évolution des championnats. On est dans une Ligue 1 où tu connais déjà le champion. Et puis souvent, je parle principalement de la Ligue 1, mais je pourrais faire la même réflexion. C'est en train de se creuser un peu partout, en Italie, en Espagne, où les championnats perdent un petit peu de leur intérêt, où les gros clubs pensent surtout à aller jouer et ils courent en avance. Il faut aller disputer n'importe quel tournoi en Arabie Saoudite, aux États-Unis, les mondiales des clubs. Soit on restructure tout complètement, soit finalement, est-ce qu'il ne faut pas l'accepter, ce monde-là? Alors, je reconnais que j'ai un peu de cynisme dans ce que je dis, un peu de désillusion que je me force à accepter. Moi, j'avais combattu multipropriété, j'étais contre tout ça, mais avec les années, je me dis, écoute, de toute façon, si après, c'est comme ça...
Quand tu vois l'état des autres clubs de Ligue 1...
En plus, tu vois l'état des autres clubs de Ligue 1 qui sont restés dans leur jus, ils sont à la ramasse.
Ah, c'est clair.
Après, sur la ramasse, après, ça fait pas peur.
Après, je vois aussi comment gérer Chelsea. C'est pas hyper bien géré. Je trouve que Strasbourg est mieux géré que Chelsea. Donc,
t'as raison. Oui.
Mais pour le coup, ça en train d'aller un peu mieux.
Mais
là.
Après, oui, il faut l'accepter. On n'a pas le choix. C'est comme ça. Moi, j'ai pas les millions pour acheter le club. Donc,
Est-ce que c'est pas générationnel aussi quelque part? C'est-à-dire que moi, j'imagine que des gamins d'aujourd'hui qui
ils s'en foutent.
Bah, ils vont s'en foutre.
D'ailleurs, les gars, au stade de la Méno, t'as aujourd'hui une grande majorité des gens.
Il
reste une frange de supporters réfractaires.
C'est ce que je dis.
Mais elle est minoritaire.
Je pense que générationnellement et en termes de
supporters normaux.
En fait. Oui, puis en termes de culture foot, c'est-à-dire que ce qui compte pour les gens. Et je dis pas que c'est bien. Après, j'entends quand tu dis l'attachement aux joueurs. Moi, ça, je le comprends. Ah, on va dire une colonne vertébrale. C'est vrai qu'on a l'habitude d'avoir un gardien pendant 5 ans. Quand c'était un bon. En plus, vous avez un bon gardien l'an dernier. Mais en revanche, c'est vrai que culturellement. Parce que les choses changent. Et générationnellement, parce que bah, les gamins n'auront pas connu autre chose, il y a un truc qui compte quand même toujours, c'est tes couleurs, ton stade, le nom de ton équipe, tu vas au stade, ça gagne, t'es content. Je veux dire, si t'as 11, 12, 13, 14 ans, que tu fais la Coupe d'Europe, que tu gagnes, je peux pas croire qu'il y a des gens qui se disent « Ah oui, mais attention, c'est la multipropriété, c'est un problème ». Qu'on soit d'accord ou non avec la multipropriété, et moi j'entends ce que tu dis parce que toi t'as une culture foot, ça fait des années que tu vas au stade, t'as connu le Racing ailleurs et dans les divisions les plus basses, tout ça moi je l'entends et je au contraire je suis même plutôt totalement d'accord avec toi. Tu vois, moi on parlait, mon club a disparu à Tours, on parlait d'un nouveau club avec peut-être de nouvelles couleurs, un nouveau nom. Moi c'est plus mon, si c'est pas le stade, les couleurs, le truc, ça me va pas. Mais si c'est le nom, le couleur, les couleurs et le stade, bah, je suis prêt à avaler quelques
en
couleurs.
En fait le problème c'est que l'ultra idéalise en quelque sorte un petit peu parfois et souvent trop sa relation au club. Parce qu'au final, tu sais, c'est comme quand on dit ouais, il faut un président qui ait connu le monde du foot. Et puis tu te poses et tu dis oula, il y en a autant qui ont coulé en ayant été des joueurs ou en connaissant le football que des mecs qui venaient des affaires et qui ont réussi, ou d'anciens journalistes qui ont réussi, Denisot et Bietri qui s'est planté par exemple. En fait, tu as tellement de tout dans l'histoire du foot, c'est comme il faut que ce soit un mec du coin. Bon, voilà, vous avez Keller. Vous avez un mec du coin, un mec qui est là depuis toujours, machin. La plupart, ils ont coulé leur club. Regarde, honnêtement, moi, je suis supporter de Montpellier. J'ai un respect immense pour la famille Nicolin. Plus pour ce qu'elle a fait dans la région et son père pour le club. Je l'ai toujours dit à Laurent Nicolin, même vraiment, c'est... Mais ce qu'il a fait sur les deux dernières années, ses choix qui ont conduit à la faillite du club en allant s'acoquiner comme il l'a fait avec Vincent Labrune en croyant... Bon, ils sont montpelliérains, c'est les mecs de la... Donc, tu as autant d'exemples de gens qui coulent que finalement... c'est vrai que l'impersonnel multipropriété, elle me gêne. Sur le fond, elle me gêne parce que j'ai été comme toi, ultra et tout. Mais il y a trop de, et en fait, les modèles sont tellement différents et il y a tellement de tout dans l'histoire du foot que dire qu'il y a une règle qui fonctionne, c'est pas vrai.
Non, le seul truc aussi.
Cyril, tu veux des nouvelles de Brondby?
C'est, le seul truc, c'est la distorsion de concurrence vis-à-vis des autres clubs de Ligue 1.
Bien sûr.
C'est-à-dire que là, il y a des montages financiers qui sont possibles avec Chelsea qui sont pas possibles pour les autres clubs.
C'est vrai.
On part au Danemark, les gars. Frédéric Jernigon est là, journaliste franco-danois qui est un habitué de la. On l'a déjà eu pendant des Euros, des Coupes du Monde. Et on a la chance de l'avoir ce soir.
Et là, c'est le moment où vous allez avoir peur.
Salut Frédéric.
Vous allez flipper.
Salut les gars.
Je compte sur toi.
Entendre les blagues sur les boucheries et les vieux jeux de mots sur les choucroutes, c'est bon, là, on est dans l'after.
Voilà. Alors, c'est pas du tout une blague sur les boucheries. Je suis très sérieux sur Pierre Schmitt.
Bon. Non, mais pardon. C'était le jeu de mots.
Frédéric, est-ce qu'il faut qu'on ait peur?
Yes.
L'Alsace a peur.
Honnêtement, moi je dirais non. Mais c'est vrai que là, par contre, si Strasbourg se fait sortir par Brøndby, c'est quand même une grosse claque. Hein. Les Danois, ils croyaient vraiment pas beaucoup avant le premier match. Non, mais là, par contre.
Objectivement, il y a 0-0 à l'aller.
Mais ils n'ont rien
montré, hein, Fred, on va pas se mentir.
Ça va être long la saison.
Ah non, mais c'est sûr. Bah, c'était. Fameuse anomalie statistique, si on veut dire ça, mais voilà. C'est sûr que le club commence à y croire un petit peu plus. Hein. On sait qu'on est un gros outsider, mais on y croit beaucoup plus qu'après l'aller ici. L'entraîneur de Brøndby, qui s'appelle Frederik Piëk, a dit qu'ils sont rentrés exactement avec ce qu'ils espéraient du match à la Meno. Et en gros, leur objectif, c'était de pas être mort avant le match retour. Donc, je pense qu'ils sont conscients du fait qu'il va falloir être meilleur avec le ballon, être beaucoup plus tueur, mais ils comptent beaucoup sur le fait que, bon, ça joue à domicile,
ils ont
un public assez chaud.
Ils vont sortir un peu.
Ouais, mais c'est ce qu'ils avaient fait l'autre
et
fois.
Ils vont se faire planter par Bakoua.
Au match retour, ils avaient mis 4 buts alors qu'ils en avaient pris 3 à l'aller, c'est ça?
Et dis donc, le week-end dernier, il n'y a pas eu une énorme.
Ouais, exactement. Oui, non, mais ça, par contre, c'est vraiment une équipe avec un niveau de jeu, mais hyper variable. Ils se sont pris une grosse rouste contre le Vikingur, là où ils ont perdu 3-0, un truc complètement honteux. Et bon, ils ont réussi leur remontada à domicile où ils ont gagné 4-0 ensuite. Mais c'est pas une équipe inabordable du tout pour Strasbourg. Mais c'est sûr que ça va être chaud.
En sortant, ils vont forcément laisser les espaces qu'a pas eu Strasbourg. Donc, normalement.
Et s'ils si sortent pas,
jouer. Mais
et s'ils tiennent le nul pour aller jusqu'au péno,
ils vont sortir.
Moi, je suis pas sûr que ça sorte beaucoup. Hein, mais
moi, je pense que ça.
Ça va être à guichet fermé. C'est la première fois que Brøndby va faire une compétition européenne depuis 2021. Donc,
combien j'ai
fait 120 minutes à attendre derrière, ça va être long pour eux.
On est d'accord que Brøndby, c'est le club un peu populaire en opposition avec Copenhague. Donc, ça va être une ambiance de folie, c'est ça?
Exactement. L'ambiance va être hyper chaude. C'est un des gros clubs historiques. Donc ça va. À mon avis, ça, l'ambiance va pas être commode pour les Strasbourgeois.
La Bombonera du nord de l'Europe.
Ouais, bon, on va pas. J'ai fait les deux stades, et c'est pas la Bombonera.
On est où, les gars?
Il y a plus de tribune.
Frédéric, c'est quoi cette histoire? Il y a pas eu une embrouille le week-end dernier dans un match là? Brøndby jouait contre une équipe dont je suis incapable de dire le nom là, mais ça s'est mal passé et tout. J'ai vite fait vu ça, non?
Ce non, jusque.
Ouais, c'est ça.
L'équipe de Maxime Soulas, un défenseur central français d'ailleurs.
Ouais.
Bah écoute, ils ont perdu 2-0, ils ont fait tourner ce week-end parce que.
En plus.
Bah justement pour être prêt pour le match de demain.
Strasbourg aussi a fait tourner.
Il y a pas un signe positif.
Oh là là. Bah, moi aussi, Fred, il vient de te dire que.
Mais il y a pas une bagarre ou je sais pas quoi dans le match. C'est pas un truc qui s'est mal passé. Non.
Avec un maire et sa fille.
Non, je pense que tu te trompes. Je pense que tu te trompes. Ils sont un peu pleins derrière le trop de matchs, etc. Mais bon, ça, c'est un poncif qu'on a entendu 15 000 fois dans l'histoire du foot.
Et toi, le FC Copenhague qui s'est qualifié ce soir, là, c'est une bonne équipe? Parce qu'il y a peut-être des clubs français demain qui vont la tirer au sort.
Oui.
Franchement, pour tout te dire, j'étais sur le match, là, c'était une purge. Ils ont vraiment mal joué, mais bon, ils ont réussi à bien se défendre. C'est une équipe qui a quand même pas mal de maturité européenne. C'est pas du niveau des plus grands, évidemment, mais ils ont quand même pas mal de matchs européens à force de faire des compétitions européennes un petit peu tous les ans. Et je pense que bon, c'est une équipe qui peut peut-être faire un peu peur, mais c'est plutôt à domicile qui pourront prendre des points contre des équipes françaises, je pense. Alors qu'à l'extérieur, ça va être plus difficile. Mais bon, ils savent. Ce que je disais, c'est que c'est une équipe un peu plus mature quand même et que. Ils savent sortir des résultats qui sont pas trop mauvais, même contre des grosses équipes. Ils ont fait match nul contre le Bayern il y a quelques années, si je me trompe pas. Donc bon, c'est pas un gros, mais ça reste quand même une équipe à prendre un peu au sérieux.
Merci Fred, tu m'as totalement rassuré.
Juste un dernier mot, s'il faut qu'on mette les clés de la maison, on les met sur quoi?
Ah, moi, je dis Strasbourg passe. Hein.
Bah oui.
Mais après, j'ai été un petit peu déçu du résultat du premier match par Strasbourg. Hein, donc, bon, je veux pas froisser Gilbert, mais.
Non, mais t'as raison.
Mais je pense que ça va passer Strasbourg quand même.
Mais là, demain, t'as l'équipe type. Hein.
J'espère qu'il y a Bakwa qui joue surtout.
Bah écoute, j'attends que Strasbourg nous fasse rêver alors.
Liga à la totale.
Est-ce que Panicelli va commencer encore?
Possible. Possible qu'il démarre avec Panicelli.
Mais le Danois.
Il a démarré avec 7 joueurs offensifs à Metz.
Ah ouais.
Donc là, il peut faire la même chose. Hein.
On a tiré trop faux au but.
Oui, ça ne va pas sauter aux yeux, effectivement.
Non, tu repenses trop au but.
Dans le derby, tu veux dire?
Non, ce n'est pas le derby. C'est moi, je suis Lorrain, je viens de Nancy, c'est Nancy-Metz.
Merci, Cyril.
Ah, mais t'es Lorrain, t'es Lorrain.
Mais j'ai déménagé chez Gilbert après. Moi.
Après, il a découvert le football.
Voilà. Oui. J'ai été à la méno au fur et à mesure, ils sont partis de CFA et j'avais bien aimé l'ambiance.
Merci, Frédéric, à très bientôt.
Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé.
On reparle de foot.
À bientôt, les gars. J'avais le bon match demain.
Tu es venu pour l'émission de Casa?
Ouais.
Magnifique. Je crois que je vais écouter ce soir.
En plus, j'ai des publicités à donner pour ce soir.
Tu lui demandes pourquoi t'es là, en gros.
Des restaurants de
Strasbourg.
C'est
incroyable.
T'es passé
ça fait 20 minutes qu'il discute avec
nous. Strasbourg, le dîner. Il parle avec nous depuis un quart d'heure. Tu demandes pourquoi il est là?
Je sais pas, peut-être qu'il bosse dans l'immeuble. Je sais pas, moi.
Donc, le mec qui rentre, dit ça, c'est là, tu sais pas pourquoi il est là.
Ben non, mais Jimmy, notre producteur, m'a prévenu. Il m'a dit tiens,
il t'a dit il y a un mec avec un maillot de Strasbourg.
Il se balade à côté des RMC.
Il m'a dit il y a une surprise. Je vois un maillot de Strasbourg, je vois Cyril. Ben moi, j'accueille les collègues, c'est normal. On est entre nous.
Ouais.
Qui est le GOAT de l'histoire de Strasbourg comme joueur? Tu dirais qui comme ça?
Yenard. Léonard Spech, Léonard, parce que techniquement je le trouvais pas bon.
Ah ouais.
Mais Léonard, c'est une légende parce que lui il mouillait vraiment le maillot.
Bah, techniquement c'est oui. Léonard, il a un magnifique pied gauche.
Ouais, pied gauche, mais on peut pas faire une carrière avec un pied gauche. Bah, je vais jouer qu'à Strasbourg.
Bah,
c'est pas Maradona non plus.
Il avait que le pied gauche.
Techniquement il était propre.
Mais après c'est un joueur que j'aimais beaucoup parce qu'il se battait vraiment beaucoup.
Spech, c'est pas tant parce que Spech était champion de France joueur. Après il a été coach, dirigeant, enfin il a occupé beaucoup de
Léonard Spech. J'aurais pu dire Zitelli, Nouma.
Franck Leboeuf.
Gilbert Guibois.
Franck Leboeuf, il n'est pas légende à Strasbourg.
Ouais, j'étais pas là à l'époque là, moi. J'étais pas né encore.
Gilbert, Francky, il est légende.
Ouais, Francky, légende.
C'était avant.
Non, mais on l'avait
bien avant.
J'étais pas né pour Leboeuf.
C'est vrai qu'il est. J'ai pas eu le temps de vous dire que Paris FC va jouer à guichet fermé.
Dis-le là, t'as
pas.
Mais là, c'est payant, c'est pas comme l'année dernière.
Ah, c'est payant. 7000 abonnés, 25 loges vendues sur 30. On s'arrache les loges, nous fait savoir le Paris FC. Ce sera totalement plein pour le premier match face à Metz, justement.
Première victoire de la saison contre Metz.
Non, mais moi, c'est quand même bien parce qu'il y a un vrai engouement Paris FC.
Oui. Si tu prends pas cette victoire-là, par contre, ça devient compliqué.
Dans un instant, notre page vintage qui deviendra un rendez-vous du mercredi soir, c'est tout de suite dans l'after. Merci Cyril.
Pas de rien.
Salut Cyril.
RMC jusqu'à minuit, l'after foot.
Gilbert Bribois. 23h38, Daniel Riolo est là, Jean-Louis Tour est là, Florent Gautreau est là. Attention, jingle vintage. Voilà, retour vers le futur. Évidemment.
Vous l'avez.
Cette référence. Parce que vous avez une culture générale largement au-dessus de la moyenne.
Marty McFly.
Attention, notre grand témoin du soir est là. On va l'accueillir avant de contextualiser ce fameux match. Jimmy Algerino est dans l'after. Bonsoir.
Oui, bonsoir tout le monde.
Salut Jimmy.
Bonsoir Jimmy, merci d'être avec nous, c'est très sympa, à une heure tardive. Alors on va parler du match PSG Steaua Bucarest 97, du match retour 5-0 pour Paris. Mais Daniel, il faut d'abord rappeler ce qui s'est passé à l'aller pour bien comprendre le retour.
Absolument. Alors déjà, puisque tu veux parler du contexte, il faut dire qu'on est dans quelque chose
qui, préliminaire de Ligue des Champions,
historiquement, n'a pas beaucoup réussi au club français. C'était mieux à cette époque-là. Donc le tour préliminaire, qui est nouveau d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y avait pas à l'époque, le deuxième ne s'en sortait pas.
C'est la première année où il y a le tour préliminaire.
Exactement. La Ligue des Champions, c'était réservé au premier. Et là, le champion 97... ça avait été Monaco.
Ouais.
Paris avait fini deuxième. Paris qui est dirigé donc à ce moment-là par le duo Ricardo-Batz. Et donc il y a ce tour préliminaire contre le Steaua Bucarest où ça doit passer tous les jours. Exactement. Il ne doit pas y avoir de problème une seule minute pour passer contre cette équipe-là. Il y a le match aller où ça ne se passe pas exactement comme prévu, puisque le PSG perd le match
3-2, alors qu'il menait 2-1.
Déjà un peu inattendu, et ce n'est pas normal que le PSG se fasse taper par Bucarest déjà 3-2. Mais la situation s'aggrave le lendemain avec des pauses techniques, grosse boulette du staff parisien qui a fait jouer Laurent Fournier, alors que Laurent Fournier n'aurait pas dû être sur la feuille de match car suspendu.
Le fameux fax qui a roulé sous, sous la commode.
Non, mille fois que c'est pas ce fax-là.
Ah, c'est pas ce fax-là qui a roulé sous la commode.
Non, le fax c'est pour contester après, non, c'est pas ça.
En tout cas, une erreur de face. C'est juste que en fait il y a une erreur. En fait, je crois que c'était le pauvre et regretté Guy Adam. Qui gérait ces choses-là et qui a pas dit au staff, qui a pas fait attention à cette suspension.
Oui, enfin, parce qu'ils avaient reçu un fax de.
Mais c'est pas celui-là qui a roulé sous la machine. C'était l'anecdote de Loris Arnaud, je t'avais raconté.
Mais non, c'est celui-là qui a roulé
sous la machine.
Non, là, le truc, c'est qu'en fait, Fournier est suspendu.
J'appelle notre arbitre du soir, Jimmy Algerino.
Jimmy Algerino, il est pas dans les bureaux pour savoir si le fax, il a roulé sous la machine, voyons.
Jimmy, est-ce que vous avez expliqué à l'époque ce qui s'était réellement passé?
Alors, je peux vous l'expliquer en tout cas ce soir, parce que je suis avec mes compatriotes, avec Vincent Guérin, et Laurent Fournier, qui eux sont allés se coucher puisqu'ils sont un peu plus, ils sont un peu plus âgés.
Mais là, en ce moment, t'es avec eux.
Je suis pas avec eux parce qu'ils sont en train de se reposer parce qu'on fait un stage, les stages de Laurent Fournier à Ifendic, en Bretagne, près de Rennes.
Ah, tu les embrasseras de notre part, les deux.
Bien sûr, oui, bien sûr, ils vous saluent, mais bon, voilà, ils sont un peu fatigués, donc ils sont allés se reposer. Et donc, on en a parlé ce matin quand Jimmy m'a appelé un petit peu pour me proposer d'en discuter. Et en fait, effectivement, il y a eu cette problématique de carton, mais en fait, le carton qui pénalise Laurent Fournier, en fait, c'est celui qui a été pris lors de la finale contre Barcelone la saison d'après.
D'abord.
Et c'est pour ça qu'il y a eu un quiproquo et que ce carton n'a pas été comptabilisé sans doute. Et c'est là où en fait l'erreur a été commise. Et Laurent Fournier d'ailleurs me disait que lui, il savait plus ou moins que il y avait une histoire de suspension. Quoi, voilà. Mais bon, mais après personne ne l'a rien dit. Il a joué le match à l'aller.
Ah oui, lui, il avait fait son petit comptage et il s'est dit mince, je suis peut-être suspendu.
C'est ça le pire, c'est qu'en fait d'abord c'est une erreur qui dans un staff de ce niveau-là ne doit pas arriver, mais qu'en plus effectivement Laurent Fournier se doutait qu'il y avait un truc pas net et tout, mais que malgré tout il a demandé, on lui a dit non, c'est bon, tu joues.
Et d'ailleurs l'autre truc aussi, c'est que certains sont même tombés sur Laurent Fournier à l'époque en disant il doit quand même être capable de savoir s'il est suspendu ou non. Il y a faute du staff mais aussi sa responsabilité à lui.
Il fait confiance au club, c'est normal. Donc finalement le PSG perd son tapis vert.
Contexte du club quand même, puisqu'il y a fait allusion, il faut le dire, quelques mois plus tôt, donc effectivement Monaco était champion, Paris a fait deux, mais quelques mois plus tôt le PSG est en finale de la Coupe des Coupes pour la deuxième année de suite, perdu contre le Barça 1-0, là le péno de Ronaldo. Donc ils sont encore dans la période où au niveau européen c'est un club qui fait peur et ils arrivent à ce tour préliminaire, et donc tapis vert après le fameux 3-2 à cause de la boulette Laurent Fournier, défaite 3-0 sur tapis vert,
et
match retour qui s'annonce
écoutez ce qui s'est passé au match retour, archive Paul Vecchio.
50 secondes après le coup d'envoi,
l'occasion pour Rai avec les nouvelles règles concernant le gardien qui n'a résisté au but. Voilà un but de rattrapé en moins de 2 minutes. Et corner tiré par Leonardo. L'éclat
et le but. Et but de Rai, il est arrivé au bon moment et ça fait 2. Et but de Simone.
Alors que Rai est blessé, but de Marco Simone.
Leonardo dans le trou, Brice. Allez Florian, allez mon petit bonhomme.
Et cinquième
but. Et le voilà, le quatrième. En première mi-temps, s'il vous plaît.
Voilà le premier.
Et ça fait donc 5-0 et le PSG.
C'était bouclé à la mi-temps.
Ouais,
ce sort de l'affaire, de cette affaire d'erreur administrative, en quelque sorte.
C'était 3-0 avec le tapis vert, donc il fallait faire 3-0.
Jimmy, est-ce que c'était dans votre saison parisienne, est-ce que, avec le recul, ça reste un grand souvenir, cette affaire-là, ou alors c'était plutôt un soulagement finalement?
Bon, ben les deux. Après le match, c'était un soulagement. Mais c'est vrai que le contexte, le match, le déroulé, la préparation aussi, parce que c'est vrai que nous joueurs, on était concentrés, on avait oublié tout ça, on voulait bien sûr se rattraper déjà du mauvais match à l'aller, parce que on devait plier ce match effectivement. Et puis surtout, ne serait-ce que par rapport à Laurent et aussi au staff administratif et global du Paris Saint-Germain, on avait à cœur de se rattraper et comme on a la chance d'être joueur et de pouvoir le faire sur le terrain, mais voilà, on a réussi à le faire.
Alors c'était une énorme ambiance ce soir-là.
Qui est capable de donner le 11 de départ ?
Il tombait des trompes d'eau. C'était en plus c'était au mois d'août. Logiquement, il doit faire beau à ce moment-là, mais c'est un déluge pas possible.
Paris quoi.
Grande folie première mi-temps. Les quatre buts sont marqués. Alors vient d'arriver au club Marco Simone.
Florian Maurice aussi, les deux devant.
Flo Maurice qui arrive comme un avant-centre qui à l'époque était quand même à la mode et demandé. Mmh. Il est bon ce soir-là. Malheureusement, par la suite, il confirmera pas les attentes autour de lui.
Il y a une autre histoire, c'est Leonardo qui en instance de départ,
qui fait son dernier match.
Exactement.
Il part au Milan le lendemain.
Il est transféré à Milan. Donc exactement. Je c'est pas le lendemain, c'est deux jours après. En tout cas, c'est.
Il fait un match énorme parce qu'il est passeur.
Il met quatre passes décisives. Leonardo. Il y a juste le penalty, mais sinon il est sur les quatre autres buts.
Ouais, c'est ça.
Voilà. Et c'est aussi la dernière année de Rai, et on le sait déjà à ce moment-là, oui. Qui met un triplé, qui est capitaine et qui vraiment lance la soirée.
Et la soirée, l'année du PSG va être en championnat moins bonne que d'habitude.
Et même en Ligue des Champions, parce que derrière, ils vont être éliminés.
La Ligue des Champions, elle est particulière à ce moment-là, mais c'est vrai, de toute façon, ils ne sortent pas de la phase de poule. Alors, il y a 24 équipes. Et il y a huit groupes, et il n'y a que les premiers, six groupes. Il y a les premiers se qualifient uniquement, et les deux meilleurs deuxièmes.
C'est ça.
Et le PSG échoue, parce que dans le dernier match, c'est Beşiktaş,
oui, c'est ça. C'est Beşiktaş.
Où il faut remonter, les buts. Fait, ouais. Paris gagne. Et en fait, à un but près, c'est, les deux meilleurs deuxièmes sont Leverkusen, qui était dans le groupe de Monaco, et la Juve, passe en tant que meilleur deuxième. Et il se trouve que cette année-là, la Juve fait finale. Monaco fait demi-finale de cette Ligue des Champions
contre le Real.
Qui ?
La Juve.
Oui, la finale.
Mijatovic.
Oui. Et Monaco contre la Juve en.
Jimmy, cette année-là, vous êtes titulaire toute la saison ?
Pas toute la saison, mais bon, on se dispute un petit peu le poste avec Lolo, parce que bon, lui jouait aussi milieu, mais bon, voilà, je suis assez souvent quand même sur le terrain, et puis surtout sur ce match-là qui était, je dirais, s'il y a bien un match qu'il fallait pas rater cette saison, c'était bien ce match-là.
Quoi. C'était une vraie grande soirée au Parc des Princes, c'est longtemps resté un des matchs référence préférés des supporters parisiens qui étaient au Parc des Princes.
C'est pas un match fondateur au sens où derrière, il n'y a pas eu la série.
Non, il n'y a pas eu
l'essor en Ligue des Champions.
L'année c'est presque. Par deux
non, mais l'année en Ligue des Champions,
de
voilà, Ligue. C'est ça. Tu sauves la saison comme ça avec les deux victoires en coupe, notamment au Stade de France, la première finale de Coupe de France.
Absolument.
Au Stade de France. Et la Ligue des Champions, ça se passe quand même pas trop mal. Tu finis pas trop mal dans ta poule. Il y a juste les 10 grosses difficultés de Christophe Revault à ce moment-là, qui devait venir remplacer Bernard Lama, qui d'ailleurs déjà à Bucarest est un peu fautif sur un des buts, qui a vécu une soirée à Munich après Ligue des Champions très compliquée. Il finira même pas la saison comme titulaire.
Il faut rappeler juste sur ce match là du 27 août 97, évidemment la compo, puisqu'on parlait de compo par rapport à Deschamps, est ultra offensive, et je crois que c'est Ngoti qui est milieu en fait.
J'aimerais Jimmy Algerino, est-ce que vous êtes capable, je suis désolé, c'est pas pour vous piéger, mais est-ce que vous êtes capable de nous donner le 11 de départ? Est-ce que vous avez ce genre de souvenir là?
Ouais, ça tombe bien parce qu'on en a parlé ce matin avec Laurent et Vincent. Donc en fait Vincent Guérin, qui était quand même un titulaire indiscutable, n'a pas joué ce match-là.
C'est vrai.
Je crois que c'est un des rares matchs qu'il a pas joué, parce qu'en fait la volonté du staff, c'était d'avoir une équipe hyper offensive. Mmh. Et donc il y a eu effectivement Marco Simone, Florian Maurice, Leonardo, Simone, il y avait Gava aussi qui était
Franck
là.
Franck Gava, exactement, était titulaire.
Et voilà, donc c'est pour ça qu'en fait Ngoti s'est retrouvé à jouer au milieu, et donc c'était plus ou moins le seul milieu défensif. Et puis surtout aussi, il faut pas oublier sur les coups francs, enfin tout ce qui était coups francs, c'était une arme supplémentaire. Et puis après derrière, il y avait quatre joueurs avec le gardien. Voilà, où là, bon, mais nous, la consigne, c'était de défendre. Il y avait, il me semble, Alain Roche, ouais. Domi à gauche, ouais. Paul Le Guen, ouais. Et moi à droite. Avec, voilà, donc.
Bah, voilà, c'est, donc bravo,
c'est marrant parce qu'on en a. On en a parlé ce matin où Vincent disait ben moi je j'ai pas joué ce match-là et Ricardo Ebas lui avait expliqué avant le match le pourquoi en fait de sa mise à pas à l'écart mais sur le banc sur ce match-là parce que c'était de jouer le tout pour le tout et d'être hyper offensif.
Ce qui est étonnant c'est qu'il ne rentre même pas en cours de match hein. C'est je crois Jérôme Leroy qui
y a un seul changement.
Dans le seul changement tu aurais pu te dire
Leroy ouais, Jérôme Leroy sur 5-0 parce qu'effectivement
et quand même sur ce match il y a un but qui est exceptionnel dans sa conception, c'est en plus entre guillemets sublimé par Thierry Roland parce que le commentaire est resté sur le but de Florian Maurice, mais le début de l'action c'est un long ballon de Paul Le Guen, une déviation en matière de Marco Simone, un talonnade magnifique pour Leonardo qui en une touche trouve Florian Maurice.
Il dit vas-y mon petit bonhomme, normalement c'était réservé à Luis Fernandez.
Il la
reprend, ouais. Et l'expression, mais et surtout Le Guen au début, effectivement, pour compléter ce que tu dis, est de près de sa ligne de but.
C'est ça.
C'est une relance, on va dire, vraiment telle qu'on en voit d'ailleurs un peu plus aujourd'hui, mais un petit peu moins à l'époque. Il faut dire que cette équipe était quand même particulièrement technique. Leonardo a fait un match incroyable.
Les gars, ce jour-là. Il faut qu'on fasse une pause, une minute. Et après, tu as la parole. Et puis, on va entendre les acteurs du match. C'est assez drôle, a posteriori. Vous allez voir, on a des archives sympas. Et donc, pour se remémorer ce match avec Jimmy Algerino qui est avec nous. À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
23h52, ils sont là, Daniel Riolo, Jean-Louis Tour, Florent Gautreau et Jimmy Algerino qui est avec nous ce soir car nous nous remémorons ce match Paris Saint-Germain, Steaua Bucarest de 97 dans notre nouvelle rubrique Vintage, 5-0 pour le PSG. Jimmy, vous voulez rajouter un truc sur Laurent Fournier, je crois.
Oui, parce qu'en fait, la nouvelle, on l'a su bien après le match et en fait, Lolo m'expliquait que le club, le staff l'avait convoqué en lui expliquant ce qui s'était passé et il lui avait dit bon là pendant 3-4 jours on veut plus te voir quoi parce que c'est vrai que les journalistes étaient
genre
derrière.
Fais-toi discret
voilà fais-toi discret et puis même il expliquait qu'en fait il est allé voir le match pour éviter d'être filmé ou d'être vu en fait il était tout en haut les journalistes ont l'habitude les cabines qui avaient tout en haut du Parc des Princes où le fait de commenter et lui s'est retrouvé en haut pour regarder le match parce que il fallait qu'il se cache par rapport à ce qui s'était passé
et moi de mémoire je me souviens qu'il avait très mal vécu cette situation là Lolo qu'à la fin du match je sais pas si c'est pile à la fin du match mais j'ai souvenir de son visage avec des larmes aux yeux qu'il contient parce que effectivement il y a beaucoup de gens qui ont dit c'est de sa faute, il aurait dû le dire et tout, alors que je pense que c'est pas assez au staff de faire attention, c'est un truc de club, il n'y a pas un homme qui peut porter cette responsabilité-là, et le soulagement qui était le sien dans cette soirée de folie ça lui avait fait évidemment du bien, mais je me souviens qu'il était vraiment très très ému.
D'ailleurs, il disait ça veut dire que quand il a commencé l'échauffement, pourtant bon, c'est quelqu'un de très solide, il disait qu'il se sentait pas bien parce qu'il sentait qu'il y avait quelque chose alors évidemment il en a pas parlé parce qu'on lui a dit que de toute façon il était dans le groupe, il pouvait jouer, mais il sentait qu'il y avait quelque chose en fait. Il s'est échauffé, il a joué, il n'y a pas eu de problème. C'était pas, enfin, lui il a ressenti, mais c'était pas lui.
Il avait un sort de sixième sens.
C'était pas quelque chose qu'il avait coché en disant non, je suis pas nul, mais je vais jouer. Et c'est vrai qu'on lui avait reproché malheureusement. Et derrière ça s'est bien passé. Et c'est vrai comme je vous disais tout à l'heure, on a joué pour lui, on a joué pour bien sûr pour le club, pour Guy Adam et pour l'ensemble des efforts qu'on a.
Alors écoutez Denisot, c'était juste après le match, c'est assez marrant la façon dont il présente les choses, écoutez.
C'est une des plus émouvantes, des plus fortes, je remercie les joueurs, Ricardo, Arthur Georges qui nous a téléphoné, tous ceux qui nous ont témoigné leur sympathie et à commencer par le public ici, le public de Paris qui est le meilleur de France. Que vient de faire Paris exceptionnel, il y avait 4% de chance, c'est fait. On est en Ligue des Champions, il y a une erreur de commise au club il y a 15 jours. Les joueurs l'ont réparé avec beaucoup de panache et de dignité.
Parce que n'oublions pas, ça rien n'a changé depuis, ça s'est même
accentué. L'homme de com qui tente de te retourner le truc pour te dire que c'est un exploit incommensurable.
Rien n'a changé, c'est même encore plus grave aujourd'hui. Mais le tour préliminaire, c'était très important parce qu'il fallait aller en Ligue des Champions et que être en Ligue des Champions, ça commençait à devenir quelque chose de capital.
Pour,
tu pouvais pas pour
Jimmy,
ne pas y aller.
Quoi. Une question, puis même à vous, parce que moi je l'ai moins vécu et j'étais pas au parc ce soir-là, mais on n'avait pas l'impression que c'était possible, que l'exploit était possible, parce que je me souviens que les supporters du PSG que je côtoyais disaient ça va le faire, c'est sans doute une histoire à écrire.
Quand même. Parce que normalement, cette équipe, tu dois la battre. Le problème, c'est que tu démarres malgré toi à 3-0, que tu avais eu toute la pression et tout ça. Mais oui, sur le coup, je suis allé au parc en me disant ça peut être une grande soirée.
Mm-hmm. C'est donc, aujourd'hui, c'est un souvenir d'enfance.
Je suis allé au parc plus confiant que quand je suis allé à PSG Real 4 ans avant, quoi. Ou au PSG Barça de 95. Là, c'était à Bucarest, tu te dis, ouais, ça va, si on fait une grande soirée, on va aller retourner. Mais t'es jamais complètement sûr, mais oui.
Oui, oui, moi, c'est mon deuxième match au parc.
À
ce moment-là. Et c'est quand j'apprends qu'il y a défaite 3-0 sur tapis vert que je dis à mon père à ce moment-là, je veux absolument faire le match retour. Voilà. Et après, il s'est passé ce qui s'est passé. On arrive, j'étais avec ma sœur aussi. On arrive juste sur le penalty de rail parce que, évidemment, nous, on vient de Compiègne, donc on a un peu de mal avec les bouchons et tout, avec le timing. Et donc, on arrive au stade juste au moment du pénalty et c'est déjà une ambiance de folie quoi.
Bon, voilà. Jimmy, c'est où vos stages?
Exactement. Eiffendick en Bretagne à 30 km de Rennes. Je voulais rajouter Michel Denisot a oublié de remercier le marabout puisque vous vous rappelez qu'il avait fait appel à un marabout donc.
Ça il l'a pas dit effectivement à chaud.
Si
vous êtes en Bretagne dans le coin vous pouvez aller voir les gens du PSG.
C'était le marabout, il demandait conseil à Claude Leroy, c'est ça?
Tout à fait, tout à fait. Il avait tenté le coup, par téléphone. Il y a quelques poulets qui ont été sacrifiés.
Dans la cage du gardien
romain.
Il demandait à Claude Leroy des conseils.
Et ça a bien marché parce que, quand même, dès la deuxième minute, tu te dis que ça fonctionne, quoi.
Ouais.
Merci, Jimmy, c'était sympa.
Merci, messieurs. À bientôt, au revoir.
À très bientôt. Ouais.
Est-ce qu'on dit qu'il sera le prochain vintage?
Non, c'est pas encore. On fait les surprises. Là, ce sera pas
un match de Jean-Louis. Moi, je trouve ça bien de ne pas faire les matchs évidents. Tu vois, pas faire France-Allemagne 82 ou France-Bulgarie, les trucs dont on a déjà parlé, tu vois.
C'est tout à fait le but.
C'est vrai. Mais on les a déjà fait, en plus, c'est vrai.
Non, mais voilà, c'est pour ça.
France-Bulgarie, on l'a fait.
Puis on connaît toute l'histoire.
La vraie question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un vintage Strasbourg?
Brøndby Strasbourg?
Il y en a plein.
Dès la semaine prochaine.
Le plus fou, c'est Strasbourg-Rennes, match de barrage. But de Kéchi du milieu de terrain. Sinon, j'ai aussi un Strasbourg-Liverpool,
Strasbourg-Inter de Ronaldo.
Bah, on élimine Liverpool quand même.
Avant l'Inter, justement, c'est la même campagne.
97, Robbie Fowler, tout ça.
Mais tu dis que ça, il faut arrêter avec ça. Il n'y a pas une image. Personne ne trouve la moindre image.
Moi, je l'ai vu à la télé.
Moi, j'ai un souvenir.
On l'a vu à la télé.
Il n'y a pas d'image.
Ça n'existe pas. Je l'ai vu à la télé.
Tu l'inventes, ce match. Il n'y a pas existé. Il n'y a pas d'image. Jamais Strasbourg a éliminé Liverpool.
Il y a une image.
Me chauffe pas, on le fait la semaine prochaine, sinon.
Avec Jean-Noël Huc.
Non, avec David Zitelli.
Avec Conte.
Valérien Ismaël.
David Zitelli, piqué à Nancy.
Regarde, tu vas voir, il n'y a pas des.
Non, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'archives.
Mais la télé retransmettait pas
Olivier Lacour.
Il n'y avait pas de replay.
C'est fini.
Je vous dis qu'il n'y a pas.
Les nuits du Casar enchaîné arrivent dans quelques instants. Restez à l'écoute. Ils sont en train de discuter dans le couloir avec les auditeurs.
À demain.
Demain, soirée Ligue des Champions, bien sûr, avec le tirage au sort et Brøndby Strasbourg. Bonne nuit à tous.
RMC, l'after foot.